CFM Villefranche, le mag.
Vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Suite du mag à Véron, le lundi, on parle de santé, de bien-être, d'alimentation et de biodynamie avec Didier Vallet toutes les deux semaines. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Didier Vallet, spécialiste de la biodynamie et des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleurie de la biodynamie. L'écorce de chêne, aujourd'hui, on y arrive. Voilà, il ne nous reste plus que le pissenlit et la valériane ensuite. Et oui. On aura exploré l'ensemble des plantes et on passera à la phase...
On aura encore beaucoup de choses à dire parce qu'on a parlé que de la description des plantes. On n'a pas parlé de ce qu'on en faisait et pourquoi ces plantes au niveau de nos sols. Mais je vois tes yeux qui brillent quand même déjà. Dès qu'on parle de chêne.
Ah oui, moi je suis assez fan. Le châtaignier, un arbre que j'ai appris à découvrir aussi. C'est passionnant de reconnaître à l'écorce un arbre aussi quand on se balade en forêt. Enfin, voilà, à notre échelle, un chêne, un châtaignier, un noisetier, un bouleau. Voilà, c'est relativement accessible quand même. Hein, ça ne demande pas. Alors qu'il y a des plantes qui peuvent être. C'est plus difficile, hein, j'ai l'impression, en botanique. Certaines plantes ont des petites.
Oui. Après, déterminer les différentes variétés de chênes, c'est pas forcément non plus donné à tout le monde et on va en parler un petit peu aujourd'hui quelque part.
L'écorce de chêne.
Voilà, donc déjà le chêne, donc c'est un arbre, c'est le roi des arbres on pourrait dire même et ça lui a valu quelques ennuis parce qu'il y a eu des régions comme les Cévennes, comme la Montagne Noire qui étaient des chênaies magnifiques qui ont été complètement détruites pour la construction des flottes royales à Aigues-Mortes, quelque part. Donc, toutes les forêts des Cévennes avaient été ravagées, disparues, sur le Mont-Aigoual, pareil. Donc, ça a été replanté au XXe siècle, déjà en pin sylvestre, et ensuite, le hêtre a apparu. Mais au départ, c'était du chêne qu'il y avait, c'était des grandes chênées quelque part.
Et c'est lent le chêne, c'est lent à se développer.
C'est lent, mais c'est un bois dur quand même, quelque part. Et c'est un bois, c'est un arbre majestueux. Le roi soleil donnait la justice sous un chêne. C'est pas, voilà, le symbole est quand même là quelque part. Donc cette sagesse, mais faut savoir là, on parlait du châtaignier aussi. Donc le châtaignier qu'on trouve surtout en terrain acide, qu'on ne trouve pas sur les côtes calcaires de chez nous, du Quercy. Le châtaignier, lui, il y a on a créé. C'est un arbre quand même qui a été cultivé. Hein, il est originaire des bords de Méditerranée, mais on a créé plein de variétés pour le fruit quelque part. Donc le châtaignier, il n'a pas tant de variétés sauvages que cela. Après, c'est un arbre fruitier, comme on a créé tous les pommiers, tous les cerisiers, et ainsi de suite. Le chêne, lui, par contre, il existe sous beaucoup de formes, quelque part. Vous avez le chêne vert, alors dans les pays méditerranéens, le chêne vert, le chêne liège aussi, avec lequel on fait les bouchons de bouteilles, disons le liège en général. Et dans nos régions, on a...
C'est vrai qu'on va dire, pardon Didier, on va dire c'est un liège en parlant de l'arbre, mais on ne va pas dire c'est un chêne liège, obligatoirement.
Oui, mais
c'est un chêne. Ouais.
C'est un chêne liège, voilà. Mmh. C'est un chêne. Mmh. C'est une variété de chêne. Dans nos régions, on trouve surtout trois variétés de chêne. Alors, vous avez le chêne du Causse, ce petit chêne tout rabougri au-dessus de la terre.
Ah, celui-là, il va bien dans la cheminée. Hein.
Voilà. Et qui a une tendance, un port un peu horizontal, c'est-à-dire il part très vite à l'horizontale. Il ne va pas faire un grand tronc qui va à la verticale. Très, très vite, il va faire des branches horizontales. Par contre, sous terre, alors, je me rappelle avoir visité les grottes de Perche-Merle il y a un bail déjà, il y a une quarantaine d'années. Il y avait une racine de chêne qui était au travers de cette grande grotte, là, qui est grande comme une cathédrale, quelque part, qui était encore au milieu de la grotte, donc qui faisait plein de petites radicelles. Et maintenant, je n'y suis pas retourné depuis longtemps, mais la racine est arrivée en bas, Elle arrivait au niveau du sol. Donc les petites radicelles sont terminées parce qu'elle épuisait toute l'humidité de la caverne avec les radicelles. Maintenant, ce n'est plus nécessaire puisqu'elle a nouveau sa racine dans le sol. Et donc, elle a une racine là, qui doit faire au moins 30 mètres ou 40 mètres pour traverser la salle. Et au-dessus, quand on voit le chêne que c'est un petit chêne. nos petits chênes du cause, ça. C'est chêne qu'on appelle chêne pubescent. Cela, à part une valeur de chauffage, de tenir la braise, ils ont peu de...
Fort pouvoir calorifique parce que le bois est très serré.
Le bois est très serré, voilà. C'est-à-dire une bûche, même si elle n'est pas grosse, elle pèse son poids au niveau d'un mètre cube, il y a du poids quelque part. Après, vous avez deux sortes de grands chênes qu'on va retrouver vers chez nous. Alors, vous avez le chêne qui va pousser plutôt en terrain très ensoleillé et qui a besoin de lumière, qui est le chêne pédonculé, qu'on appelle. On appelle ça le chêne pédonculé. Son nom latin, c'est Quercus robur. Quercus, on retrouve le terme Quercy. Donc c'est le chêne du Quercy, vraiment. Ce chêne, lui, a besoin de... Il ne peut pas être très serré dans des peuplements de chênais. Il faut qu'il ait de la place. Il va faire un tronc assez élevé, mais qui très vite va donner des branches qui vont partir un petit peu en bouquet de branches. Et il va donner du coup le feuillage n'est pas très... On voit le soleil, on voit la lumière au travers de son feuillage, quelque part. Alors on l'appelle pédonculé parce que le pédoncule, normalement, c'est une petite tige qui sur laquelle la feuille est attachée à la tige ou le fruit, si vous voulez. Par exemple... une pomme va pas avoir le fruit est directement rattaché à la branche. Il n'y a pas vraiment de pédoncule, tandis qu'une cerise, il y a un très grand pédoncule. Voilà. Pédoncule, c'est cette partie qui rattache soit la feuille soit le fruit. Alors le chêne pédonculé, il a des fruits qui ont un petit pédoncule. Et les feuilles, par contre, sont directement attachées à la branche. Elles n'ont pas ce petit pédoncule qui est rattaché à la branche. Ça, c'est le chêne du cause. C'est pas pas le chêne pubescent, mais le chêne qui pousse en terrain plutôt calcaire, très ensoleillé, ainsi de suite. Et puis après, vous avez les très grands chênes. On en a moins dans nos régions. On les trouve beaucoup en Bourgogne. Et là, c'est le chêne rouvre, quelque part. Et celui-là, c'est le chêne non pédonculé, c'est-à-dire qu'il fait le contraire. Le gland est directement attaché à la branche et la feuille a un petit pédoncule. Voilà un moyen. Et celui-là, il fait des grands troncs. Alors, il peut pousser en habitat beaucoup plus serré. Il y aura plus... je ne sais plus les formes, mais en foresterie, je crois qu'on compte 70 chênes à l'hectare sur le chêne pédonculé et 100 pour les autres. C'est-à-dire qu'ils peuvent être plus serrés et ils font un tronc qui monte jusqu'en haut de l'arbre avec des branches, mais qui ne font pas un toupet quelque part à partir d'une certaine hauteur. Le tronc est tout droit. Donc aussi, en menuiserie, on peut sortir des poutres beaucoup plus longues avec ce chêne rouvre. Alors, le chêne que nous utilisons, nous, en biodynamie, on revient un peu à la biodynamie quand même. Alors, on utilise l'écorce, déjà. Alors, pourquoi l'écorce? Ce qui nous intéresse, quand Steiner, dans ses conférences, parlait du chêne, il disait que le chêne a pour utilité d'éviter les maladies des plantes, de nos cultures. C'est-à-dire de les rendre immunes aux maladies, quelque part. Auto-immunes, si on veut. Et que ce qui fait cette particularité du chêne, c'est le calcaire qu'il contient. Et que la partie de l'arbre qui contient le plus de calcaire, c'est l'écorce. Et c'est l'écorce extérieure, c'est pas l'écorce vivante, c'est l'écorce extérieure. Alors là aussi, on peut reconnaître les deux chênes qu'on récolte l'écorce, parce que le chêne rouve, le grand chêne, il a une écorce qui fait des assez serrée. Voilà, assez serré et qui fait comme des petits parallélépipèdes, des petits rectangles. Parce que ce n'est pas d'un seul tenant l'écorce de chêne, hein, ça fait des morceaux. Tandis que le chêne, le Quercus robur, le chêne pédonculé, celui qui nous intéresse, lui, c'est beaucoup. Les sillons entre l'écorce sont beaucoup plus larges et ça forme des trapèzes plutôt que des rectangles. Donc, à l'écorce, on peut aussi les reconnaître quelque part, à la forme particulière et à l'écorce. Donc, cette écorce de chêne extérieure, elle contient, quand on la fait brûler, il y a 90% des cendres qui sont du calcium, quelque part. Et c'est dans celui-là, c'est celui-là qui est plutôt, qui pousse plutôt sur les terrains calcaires, alors que l'autre chêne, on le trouve plus facilement en Bourgogne, par exemple, dans des terrains acides. Voilà. Donc, c'est ce chêne qui est très, très riche en calcaire qui nous intéresse. Et très souvent, justement, pourquoi ce calcaire du chêne ? Pourquoi pas mettre de la chaux vif, par exemple ? En agriculture conventionnelle, quelque part, pour quand on a besoin de calcium, on met de la chaux. Et dans le cours aux agriculteurs, dans les bases de la biodynamie, Steiner dit toujours ce qu'il nous faut, c'est le constituant, mais qui soit originaire de quelque chose de vivant. C'est pour qu'il agisse sur les forces de vie. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les quantités, ce n'est pas mettre du calcium en très grande quantité, c'est mettre un calcium qui vient du monde du vivant et en petite quantité, à ce moment-là, on agit sur les forces de vie, on n'agit pas sur la matière, quelque part. C'est toujours... on reviendra là-dessus quand on va vraiment parler de comment... pourquoi utiliser ces plantes, qu'est-ce qu'elles apportent, ainsi de suite. C'est toujours ce principe que quand on fait un apport en grosse quantité de quelque chose, par exemple de l'azote ou du phosphore ou du potassium, les engrais NPK en conventionnel, on agit directement sur la matière, on agit directement sur le physique. Tandis qu'en biodynamie, ce qu'on essaye de faire, on prend des substances qui viennent du monde vivant, on les utilise en toute petite quantité, on en parlera, hein, parce que c'est vraiment des quantités homéopathiques, et à ce moment-là, on agit sur le corps. Je vous avais présenté les différents corps des êtres vivants, en disant qu'il y a un corps physique, un corps de vie, un corps d'émotion pour les animaux et puis un corps psychique, un moi pour les êtres humains. Et là, quand on utilise ces substances dynamisées et extrêmement diluées, on agit directement sur le corps de vie et non pas sur le physique. C'est-à-dire, on intervient sur les énergies vitales des plantes, des animaux, du sol, quelque part. Donc, là, avec ce calcaire qui vient du chêne, quelque part, on va apporter un calcaire vivant et non pas un calcaire qu'on va apporter sous forme de plusieurs tonnes à l'hectare, par exemple, qui provient de la chaux vive. On fait brûler du calcaire, c'est-à-dire du carbonate de calcium, et on obtient un produit de synthèse, en fait. Hein. Même si ça vient on a extrait une roche, on l'a fait brûler, mais c'est quand même pas quelque chose qui est passé. Ça a été vivant il y a des millions d'années, quelque part, puisque le calcaire était vivant. Mais ça, c'est très, très ancien. Donc, Donc voilà un petit peu. Bon, peut-être qu'on peut dire d'autres choses sur le chêne.
On est pas mal, là, en termes de chrono. vous surveillez vous-même, j'aime beaucoup maintenant. Merci Didier, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Le chêne et son écorce, aujourd'hui. Vous savez de quoi vous allez nous parler la prochaine fois? On poursuit sur...
On sera au mois de mars. Eh bien, j'espère que le pissenlit va commencer à pointer son nez. on pourra, même s'il n'est pas en fleurs, on pourra manger les feuilles peut-être déjà.
Très bien.
Faire des salades de pissenlit.
Ah bah oui. Merci Didier, à très bientôt, voilà. À dans 2 semaines. Belle journée, excellente semaine.
Au revoir.
CFM Villefranche, le mag.